On ne se quitte pas sans un nouveau rendez-vous avec l'actualité, samedi 30 août, et votre journal, Marie-Hélène Duvigneau. Bonne journée.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Parti Socialiste, prêt à prendre la relève de François Bayrou et à gouverner après le vote de confiance du 8 septembre, il présente aujourd'hui ses propositions budgétaires pour prouver qu'une autre voie est possible. Des violences sexuelles dans un établissement catholique à Nantes, 5 prêtres aujourd'hui décédés et un surveillant auraient fait 10 victimes entre 1958 et 1995. Et puis, en Inde, l'opposition dénonce le vol des dernières élections. Elle mène une marche contre les fraudes électorales à travers le Bihar, l'état le plus pauvre du pays. Dernier jour des universités d'été du PS à Blois. Ce matin, le parti doit détailler son projet de budget alternatif que les socialistes, avec leurs alliés de gauche, comptent porter à l'attention du président de la République pour se voir confier Matignon après la chute probable de François Bayrou le 8 septembre. Une stratégie qui ravit les militants socialistes que vous avez rencontrés hier, Adrien Toffolet.
Sourire satisfait sur le visage de Jean-Jacques à l'écoute de la stratégie présentée par Olivier Faure. Pour se retraiter, il faut acter la fin de l'ère Bayrou.
On arrive au bout de l'ère et puis on a bien vu, vous avez entendu comme moi les chiffres, le bilan aujourd'hui et puis le budget qui est affligeant. Et puis on touche, vous avez bien entendu, hein, les classes populaires, nous les retraités. Donc après, l'ère Bayrou, c'est au président, de toute façon c'est lui qui aura le dernier mot.
Et le fait de ne pas se sentir seul à porter l'alternative, que le PS soit entouré par ses alliés, est un atout pour Jérémy qui vient de Marseille.
Moi je trouve que c'est une opportunité pour la gauche, et pas que le PS, mais en mode collectivement, de la jouer pour avoir vraiment des responsabilités et ne pas jouer chacun perso dans son coin. Et du coup, le PS a une opportunité de s'allier avec les forces de gauche et d'avoir une proposition, un programme à apporter.
Il y a toutefois une composante manquante au projet. Tous les militants l'ont en tête, comme Arnaud, 24 ans.
Aujourd'hui, c'est sûr qu'évidemment, la France insoumise n'est pas là. Et je pense que les divergences des dernières semaines, voire des derniers mois, font que malheureusement, on ne peut pas être unis parce que sur certaines valeurs, il y a trop de dissensions. Maintenant, l'important, c'est de montrer que déjà, ce cœur de la gauche-là, il peut exister et il peut être une force motrice comparée à la grosse machine qu'est la France insoumise. Et c'est pas dit que derrière, sur certains sujets, on puisse se retrouver à l'Assemblée.
La culture du compromis, vantée par Olivier Faure, pour éviter une solution dissolution qui, selon eux, risque de ne renforcer que le Rassemblement national.
Pour s'opposer au projet de budget de François Bayrou, les syndicats ont décidé hier de lancer un appel à la mobilisation le 18 septembre, 8 jours après le mouvement Bloquons tout, né sur les réseaux sociaux. Des abus sexuels commis pendant des décennies au collège Saint-Stanislas de Nantes de 1958 à 1995. 10 victimes, toutes mineures, c'est ce qu'ont révélé hier l'évêque de Nantes et la direction de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique. 5 prêtres, tous décédés aujourd'hui, sont mis en cause, ainsi qu'un laïc, un surveillant de l'internat, Céline Loiseau.
L'évêque parle d'actes ignobles, des viols et des agressions sexuelles. Monseigneur Perceroux dit sa honte et apporte son soutien aux victimes.
Des vies ont été brisées. Quand vous rencontrez des victimes, même qu'ont 70, 75, 80 ans aujourd'hui, c'est des parcours de vie souvent heurtés, des peurs qui les habitent, des mal-êtres.
Cette vérité n'est pas facile, mais il faut l'assumer, reconnaît le directeur diocésain Frédéric Delemasure. Tout part de 2 signalements remontés au diocèse en mai dernier.
Alors je crois vraiment que l'affaire dite Bétarame a contribué à libérer la parole. Nous savions qu'il s'était passé des choses atroces dans l'établissement, mais vous savez, c'est comme quand vous recevez une lettre anonyme, vous ne pouvez rien faire. Là, il y a une famille qui parle, qui nous aide.
Des recherches sont alors faites dans les archives du collège et pour l'instant, 10 victimes sont identifiées. Certaines avaient sollicité des instances nationales et non locales. L'évêque lance un appel à témoignages pour retrouver d'éventuelles nouvelles victimes dans ce collège ou d'autres écoles du diocèse. Une initiative saluée par Jean-Pierre Fourny. Il est co-président d'une association de victimes du Grand Ouest.
Ouais, c'est vraiment une super nouvelle pour nous. C'est un exemple, hein, c'est une première.
Et poursuit-il, il compte demander à d'autres évêques de faire la même chose.
L'évêque a signalé les faits au procureur de la République. Une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump sont illégaux. Décision hier d'une cour d'appel fédérale américaine qui confirme une décision de première instance. Les droits de douane sont toutefois maintenus le temps que l'affaire soit tranchée par la Cour suprême. Les États-Unis refusent l'octroi de visa des responsables palestiniens avant l'Assemblée générale de l'ONU le mois prochain. Une assemblée au cours de laquelle la France plaidera pour la reconnaissance d'un État palestinien. L'Ukraine, une nouvelle fois ciblée par d'intenses bombardements russes ce matin, des attaques qui ont fait au moins un mort dans la ville de Zaporijjia au sud-est. Direction l'Inde, à présent, où l'opposition dénonce des fraudes électorales massives qui auraient faussé les dernières élections. Selon le parti du Congrès, les nationalistes hindous au pouvoir ont inventé des électeurs pour faire pencher la balance en leur faveur. Alors que le gouvernement nie farouchement, l'opposition organise 14 jours de défilé auprès des électeurs. Le reportage de Combastin dans l'état du Bihar.
Dans cet état pauvre, des milliers sont rassemblés ce jour-là pour entendre Rahul Gandhi, le leader de l'opposition.
Mes amis, dans toute l'Inde, les élections vous sont volées. Des électeurs fantômes sont inscrits sur les listes électorales et d'autres en sont exclus. Mais le peuple du Bihar ne se laissera pas faire.
Ici, on vote en octobre et le gouvernement a annoncé actualiser les listes électorales. L'opposition redoute que les électeurs jugés défavorables au pouvoir soient radiés, d'autant plus facilement que les habitants, parfois analphabètes, n'ont eu que 5 jours pour contester leur radiation.
Ce sont d'abord les chômeurs ou les travailleurs migrants qui vont être exclus des listes électorales. Or, les classes laborieuses votent plutôt pour l'opposition. Et ainsi, le pouvoir central oriente les élections dans le Bihar.
Cette professeure venue de la capitale, Patna, soutient les figures de l'opposition qui défilent dans les villages du Bihar. La mobilisation attire de nombreuses personnes. Certains nous font part cependant de leur défaitisme, jugeant que tous les politiques indiens se livrent à des fraudes une fois au pouvoir. La commission électorale indienne nie farouchement toute falsification des listes électorales et assure que les élections sont menées en toute indépendance et transparence.
Le temps aujourd'hui ensoleillé sur le pourtour méditerranéen, nuageux sur le reste du pays, mais plus sec qu'hier avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation par la Bretagne. Les températures maximales 19 à 23 degrés au nord, 23 à 27 au sud, 28 à 30 près de la Méditerranée.